jusqu'à 9h30. C'est que la Mauricie se lève avec Marc-André Pelletier.
À 7h06, le journaliste de La Presse, Patrick Lagacé, est avec nous autres ce matin parce que il a écrit un texte que j'ai trouvé extrêmement touchant qui s'appelle « Trois brochures et une pilule ». Ça a été publié dans La Presse. Si vous n'avez pas eu l'occasion de lire ce texte-là, ça mérite franchement une très bonne lecture et ça génère toutes sortes de réflexions. Pour vous faire une histoire simple, c'est le récit de Jean-François Lucier. C'est un homme qui vivait mal avec une séparation, voulait mettre fin à ses jours, avait élaboré un plan, tout était en place pour que ça se fasse. Sa sœur, à un moment donné, le prend et lui dit « Écoute, tu vas pas bien, tu as besoin de consulter, on va aller voir ma médecin de famille et on va s'assurer de te prendre en charge ». L'homme, évidemment, trouve ça un peu gênant et tout ça, et il va quand même, consulte et tout. Il est référé à un état dépressif majeur. On dit il faut absolument soigner ce gars-là au plus sacrant parce qu'il a des idées suicidaires. Et finalement, quand vient le moment de le référer, ça fonctionne tout croche. On lui donne, comme le titre le mentionne, trois brochures et une pilule. On le renvoie chez lui. Et ce qui devait arriver, arriva. Il met fin à ses jours quelques jours plus tard. Patrick Lagacé, bon matin.
Salut Marc-André.
C'est une histoire épouvantable et je vais commencer en quelque sorte par la fin parce que l'une des dernières phrases de ton texte, c'est de dire, on nous dit, consultez, n'hésitez pas, si ça ne fonctionne pas, parlez-en et c'est ce qu'il a fait et pourtant...
Et pourtant, tu sais, à un moment donné de l'histoire, là, entre le rendez-vous chez la médecin de famille et le départ à la Cité de la Santé, qui est un hôpital à Laval, il est désemparé, puis il dit à sa sœur, ben, coudonc, de quoi j'ai l'air? Et sa sœur lui dit, écoute, t'as l'air d'un gars qui demande de l'aide, puis je suis fier de toi que tu demandes de l'aide. Et quand il arrive justement à l'hôpital, bon, il passe au triage, passe rapidement, voit... il vous voit un urgentologue. L'urgentologue dit, écoutez, psychiatrie tout de suite. Voit un psychiatre. La sœur est certaine qu'on va garder son frère parce que son frère a un plan de suicide, a des idées suicidaires, fait des recherches. Et même, comme il dit au psychiatre à l'hôpital, il a déjà, là, peu avant, il a déjà commencé à enclencher le plan à un moment donné, puis il a interrompu son plan de suicide parce que sa fille... est entré dans la maison alors qu'il ne l'attendait pas. Et malgré tout ça, ben il n'est pas gardé en psychiatrie sous observation. On ne l'interne pas, que ce soit par mesure préventive. On lui donne... Oui, on change sa médication, puis on lui donne trois brochures pour les personnes en détresse.
Tu sais, ma question est un peu bébête, mais comment est-ce possible?
Ben tu sais, pour nous qui ne sommes pas psychiatres, ouais. Je pense qu'il y a... cette conception selon laquelle si tu as un plan, si tu as des idées suicidaires, on pense qu'on va nous garder ou qu'on va garder un de nos proches. Il semble que ce soit pas, entre guillemets, simple comme ça. Il y a d'autres critères, mais j'ai parlé à d'autres psychiatres. Je leur ai soumis les détails de ce cas-là. Oui. Et les deux psychiatres là, qui cumulent 65 ans d'expérience ne comprennent pas. Ils disent, écoute, je suis pas là, mais si ce que la sœur rapporte, je comprends pas qu'on ne l'ait pas gardé.
Ben non, parce
que... On s'entend que c'est pas une science exacte.
Non.
Mais toujours est-il qu'à peu près 8-9 jours après, ben cet homme-là a mis fin à ses jours.
Parce que, tu sais, je me demande à un moment donné quel peut être le moyen plus convaincant que celui-là. Tu as quelqu'un qui se fait un plan de match carrément, qui est amené par sa sœur, qui a réussi quand même à le convaincre, pour le sauver en quelque part. T'as une médecin qui dit oui, il faut s'en occuper le plus rapidement possible. Puis malgré tout ça, le gars s'enlève la vie. C'est complètement absurde.
Écoute, c'est sûr que c'est confrontant. C'est sûr qu'un réflexe que les gens peuvent avoir, c'est de blâmer le psychiatre. Puis là, je sais qu'il y a une enquête du coroner.
Oui.
Mais il faut voir s'il n'y a pas quelque chose de systémique aussi. T'sais, on entend souvent dans le réseau qu'il y a des listes d'attente. On entend souvent dans le réseau qu'il y a des lits qui sont pas accessibles dans les hôpitaux. Est-ce que ça finit par avoir un jugement par avoir un impact sur le jugement de certains praticiens? Moi, c'est la question que je posais dans la chronique. Parce que Parce que ce psychiatre-là, à un moment donné, quand la sœur insiste, puis la sœur insiste pudiquement quand elle réalise là, que le psychiatre ne va pas retenir son frère à l'hôpital, elle n'ose pas, Marc-André, elle n'ose pas dire « Hey, gardez-le, internez-le. Ouais. » Parce qu'elle se dit « Écoute, si le psychiatre change d'idée, mon frère risque de me blâmer moi. » Mais elle dit « Écoutez, il y a besoin d'aide immédiate. » Et là, le psychiatre lui aurait répondu, selon le témoignage d'Annie Lucier, ben écoutez, je peux faire une requête là pour un suivi en psychiatrie, mais vous savez, il y a des listes d'attente.
Ouais.
Et ça, la liste d'attente, ça m'a fait penser à un cas enquêté par le coroner en Outaouais. C'est sorti tout récemment dans les pages du journal Le Droit. Et dans ce cas-là, ben c'est une jeune femme qui était en attente pour un suivi psychiatrique depuis 4 mois. Elle s'est suicidée quatre ou cinq jours avant son rendez-vous en psychiatrie. Donc, les mots liste d'attente sont des mots qu'on entend souvent dans le réseau. Est-ce que ça finit par teinter le jugement du réseau à savoir s'il y a une urgence ou non? Moi, c'est la question que je pose.
Oui, tu disais peut-être que c'est un problème systémique, disons-le comme ça. Et effectivement, tu sais, quand une personne menace de s'enlever la vie ouvertement quelque part, on sous-estime pratiquement son mal qui n'est pas physique dans les faits, ou en tout cas pas complètement physique. On le sous-estime-tu? C'est ça le problème?
Écoute, il faut s'entendre que ce n'est pas une science exacte.
Ouais.
Oh,
ouais.
Si tu as un ménisque déchiré, tu as mal au genou, ben je dis pas que c'est simple, mais je pense que c'est plus simple à diagnostiquer
c'est ça.
Qu'un trouble bipolaire, que des chances de passer à l'acte. Et en ce sens-là, c'est plus difficile, mais en même temps, bon... Ces médecins-là sont formés, le système est formé. C'est ça qui est troublant. Et chacun de nous peut être susceptible à un moment donné d'avoir des périodes difficiles. Moi, tu sais, quand j'ai choisi d'écrire là-dessus, quand j'ai reçu le témoignage d'Annie Lucier, ça m'a sonné une cloche. Il y a un an ou deux, là, j'ai fait... tu sais, il y a la journée Belle Cause pour la cause, oui. Là, pour la santé mentale, chaque début du mois de janvier. Non, chaque fin du mois de janvier. Bon, c'est une belle activité. Et j'avais posé la question à mes lecteurs via Facebook. Parlez-moi des fois où vous êtes frotté au système de soins en santé mentale. Racontez-moi comment ça se passe. Parce que c'est vrai que si on lève la main, on a de l'aide. Il y a un témoignage qui m'avait particulièrement frappé dans ce que j'avais reçu. C'est une femme qui travaillait comme réceptionniste dans une clinique médicale et une patiente, une femme, se présente là en crise. Elle dit « Moi, je vais me suicider. Occupez-vous de moi.
Ouais. »
Écoute, on appelle l'ambulance immédiatement. L'ambulance est appelée. Et là, dans l'esprit des gens de cette clinique-là, « OK, parfait, l'ambulance est venue chercher la dame. On va s'occuper d'elle. » Clairement, une dame en crise qui a un plan de suicide, etc. C'est pas à nous, à la clinique médicale, à gérer ça. Ben, quelques heures plus tard, la femme est revenue. Elle a dit, bon, ils m'ont donné mon congé à l'hôpital, puis ils m'ont dit de venir ici de prendre rendez-vous. Fait que ça, c'est ce qui m'a sonné une cloche quand j'ai reçu le témoignage d'Annie Lucie. Elle me dit, OK, il y a peut-être quelque chose de plus universel que ce qui est arrivé à M. Jean-François Lucie. Et évidemment, Marc-André, tu t'en doutes, hier, j'ai reçu des dizaines de témoignages.
Ah, j'en suis convaincu.
Qui finissent pas aussi mal que ça, mais certains oui. Et bien des gens qui se demandent, écoute, qu'est-ce que ça prend pour qu'on garde des gens à l'urgence, à l'hôpital, quand ils sont en crise psychiatrique? Et la réponse que je peux te donner ici, c'est ça dépend des endroits, ça dépend des régions, ça dépend des hôpitaux, puis ça dépend bien souvent du praticien qui est devant toi.
C'était exactement le sens de ma question, et ton texte va au moins là-dedans nous faire réfléchir. C'est un élément positif à tirer tout ça, c'est qu'on va réfléchir et puis on va peut-être revoir ou en tout cas repenser nos manières d'accueillir ces gens-là. Merci beaucoup d'avoir pris le temps ce matin, Patrick.
Merci à toi, Marc-André. Ciao.
Bonne journée, bye-bye. Patrick Lagacé, journaliste du côté de La Presse. Donc, 3 brochures, 1 pilule, c'est le titre du texte qu'il signe, qui est franchement bouleversant. Et je pense que ça va valoir la peine qu'on aborde ça avec notre ami le doc.